France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir, la consommation de pornographie en France et particulièrement chez les mineurs. Encore faudrait-il peut-être distinguer dans cette catégorie les mineurs de 12 ans de ceux qui ont 17 ans, on verra ça dans un instant. Plus de la moitié des garçons de 12 ans visitent chaque mois un site pornographique. Ce taux passe aux deux tiers quand on est dans la tranche d'âge 16-17 ans. Avec quelles conséquences sur la sexualité, sur la construction sexuelle? Ce sera l'un des thèmes ce soir. Selon un rapport sénatorial de 2022, la France serait le quatrième plus gros consommateur de porno dans le monde. Et pour protéger les mineurs, la France tente depuis 2020 d'obliger les plateformes à vérifier l'âge de leurs visiteurs. Un procédé bien compliqué à mettre en place s'il veut être efficace, sans se contenter donc d'un simple clic pour dire qu'on a plus de 18 ans. Et bien depuis ce matin, l'ARCOM peut mettre en demeure les sites pornographiques qui ne contrôlent pas assez efficacement l'âge de leurs utilisateurs. Une obligation de vérification dont ne se satisfait pas l'un des plus grands éditeurs de sites pornographiques, le groupe Hilo, qui préfère donc suspendre ses contenus en France et se concentrer sur son business à l'étranger. Eh bien, bon vent, lui répond le gouvernement. La pornographie en France, quelles conséquences chez les mineurs? C'est le thème ce soir. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec trois invités, Justine Atlan, bonsoir.
Vous bonsoir.
Êtes la directrice générale de l'association e-enfance, également du numéro 3018 contre le harcèlement et les violences numériques. Maëlle Chalambelval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'organisme de formation Comitis, spécialisé en éducation affective et sexuelle. Vous êtes aussi l'autrice d'un jeu, le jeu des relations saines ou toxiques. Hein, c'est un outil pédagogique sur le consentement dans les relations amoureuses. Et puis en ligne avec nous, Florian Voros. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie et maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Vous êtes membre du laboratoire Géricault. Justine Atlan, pour e-enfance, faites-vous une différence d'ailleurs entre un enfant de 10 ans et un ado de 17 ans quand il s'agit de le protéger des images pornographiques?
Évidemment. Je pense qu'on fait tous la différence entre un enfant de 10 ans...
Sauf que la loi sera la même pour tous.
La loi est la même pour tous, bien évidemment. La loi, elle protège les mineurs de l'exposition à la pornographie. Après, il faut bien une date butoir, donc c'est l'âge des 18 ans. Ensuite, je fais confiance, effectivement, aux régulateurs pour apprécier si passe à travers les mailles du filet, avec un système de vérification d'âge plus ou moins fiable, des adolescents de 17 ans ou des enfants de 10 ans. Ça n'a évidemment rien à voir, puisqu'on sait que quelques mois après, 17 ans pour avoir accès légalement, et je pense qu'on viendra ensuite sur l'impact que ça peut avoir d'être confronté à ces images à 10 ans, à 17 ans, ça a évidemment absolument rien à voir.
Maëlle Chalambelval, présidente de l'organisme de formation Comitis, spécialisée, je rappelle, dans l'éducation affective et sexuelle, vous vous déplacez avec vos équipes dans des classes, du CM1 jusqu'à la terminale, pour parler aux élèves, évoquer ces sujets avec les élèves. Est-ce que vous avez le même discours, quelles que soient les classes?
Non, on n'a pas le même discours, quelles que soient les classes, et les enfants n'ont pas les mêmes questions en fonction de leur âge, en lien avec leur corps, en lien avec le consentement et en lien avec la pornographie. En fait, l'exposition à la pornographie ne produit pas les mêmes effets chez un tout petit de CM1 ou de 5e qui a très peu de second degré, a beaucoup de mal à comprendre que c'est de la fiction, et peut-être un jeune homme, une jeune fille de 17 ans. Mais en fait, je pense que c'est poser la question à l'envers que de se dire à quels ados on propose un raccourci pour éviter cette protection. La question, elle est à poser dans l'autre sens. Heureusement qu'aujourd'hui, on prend conscience de nos responsabilités et qu'on se met à protéger la majorité des mineurs.
Protéger les mineurs. Florian Voros, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dénomination? Y a-t-il à protéger? De quoi doit-on protéger les mineurs?
Alors, peut-être pour commencer... Je
vous demandais de vous rapprocher du micro parce que vous êtes un peu loin.
Pardon. Pour commencer, j'aimerais commencer par souligner qu'il y a un large consensus politique pour empêcher les mineurs d'accéder à la pornographie. mais que ce consensus est beaucoup plus difficile à construire pour permettre aux mineurs d'accéder effectivement à des espaces d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et je pense que ça doit nous interroger qu'en tant que société, on arrive à construire un consensus sur le fait d'interdire l'accès, mais on n'arrive pas à construire un consensus sur le fait de donner des ressources et de donner des moyens aux enfants et aux adolescents pour se construire.
Justine Atlan, protéger les mineurs de la pornographie, c'est les protéger de quoi précisément ?
Alors, protéger les mineurs de la pornographie, d'abord, tout simplement, c'est les protéger de contenus qu'on appelle adultes. Donc, c'est les protéger de contenus qui ont été créés par les adultes, pour les adultes, et qui, effectivement, ont vocation à plutôt s'adresser à des êtres humains qui ont déjà des relations sexuelles et qui vont se servir de la consultation de la pornographie pour y trouver une excitation sexuelle seule ou à plusieurs.
Ma question, c'était avec quels dégâts, en fait ?
Alors voilà, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, les dégâts sont justement liés au fait que, alors pour revenir à vos distinctions, on va plutôt parler, par exemple, des enfants, donc qui peuvent avoir 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui sont donc des enfants qui n'ont absolument rien dans leur cerveau qui leur permet, quand ils sont confrontés à ces images-là, de les raccrocher à ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'une réalité, ne serait-ce qu'une case. C'est-à-dire que c'est vraiment des scènes qui vont associer à de la violence pour eux et qui va profondément les traumatiser. On appelle ça comme une effraction psychique. C'est vraiment comme un coup de poignard qui est fait dans leur cerveau et qui, globalement, va les figer face à ces images. Et on s'en rend compte malheureusement assez bien parce que ce sont des enfants qui vont voir quand même évacuer ces images d'une façon ou d'une autre. Donc, ils vont pouvoir les faire de façon diverse et variée, avec des cauchemars, avec des dessins ultra réalistes en termes de sexualité et d'organes sexuels qui vont révéler le fait qu'ils ont vu effectivement des choses, d'autres qui vont même avoir des agressions sexuelles entre guillemets sur d'autres enfants de leur âge, parce qu'il va falloir qu'ils remiment ou qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu, tellement c'est pas pensable et c'est pas nommable et il faut qu'ils
reproduisent. Donc l'enfant reproduit quand il ne le comprend pas.
Bah, ça peut être une des choses qu'il va faire effectivement, soit il va le faire avec des jouets, soit avec des poupées, soit il va avoir des mots qu'on va trouver très étranges dans la voix d'un enfant, soit encore une fois, et ça dans les écoles ça arrive et c'est souvent comme ça qu'on se rend compte que les enfants ont pu voir des contenus, c'est qu'ils vont reproduire avec des enfants ou avoir des gestes complètement effectivement déplacés, sexués avec des enfants de leur âge. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout compréhensible pour eux. Et chez les adolescents, ça a d'autres, évidemment, impacts que peut-être nos invités reviendront dessus, parce que je ne veux pas accaparer la parole non plus.
Non, mais vous n'accaparez pas. Maëlle Chalambelval, vous dites avoir constaté que la pornographie avait une influence grandissante sur les enfants, des enfants de plus en plus jeunes, c'est-à-dire.
Oui, moi, peut-être qu'un des effets sur lesquels j'aimerais attirer l'attention, c'est, je l'appellerais comme ça, une forme de porno-anxiété. De sexo-anxiété. C'est-à-dire que ça génère chez les jeunes adolescents et les adolescents plus grands une inquiétude par rapport à la performance sexuelle, une inquiétude par rapport à leur corps qui semble poilu, qui semble inadéquat, dont les organes sexuels n'ont pas les bonnes tailles, les bonnes couleurs, les bonnes formes. En fait, à l'inverse de l'éducation affective et sexuelle quand elle est bien faite, qui génère de la sécurité, de la joie, des questions ouvertes, la pornographie, qui est souvent très mal digérée à ces âges-là, génère du repli sur soi, de la honte, des blagues graveleuses, assez peu assumées finalement. Vous voyez, ça génère en fait absolument pas du lien social, ça génère l'inverse.
Il faut savoir ce dont on parle, hein, parce que je crois qu'on parle des images dont on parle tous. C'est une pornographie très particulière, qui est celle qui aujourd'hui circule sur Internet.
Qui est plus agressive que celle d'il y a
30
ans.
Voilà, on ne parle pas du tout des films pornographiques qu'on peut avoir en tête d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Hein. Ce sont des scènes assez courtes, qui ont l'air d'être amateurs, qui sont tournées dans des conditions assez déplorables, où globalement on assiste vraiment à des scènes extrêmement violentes, et donc qui effectivement ne ressemblent de près ou de loin très peu à une sexualité, et donc effectivement qui pour les adolescents sont vraiment une injonction à quelque chose dont ils se rendent bien compte que ça ne fait pas écho à quelque chose de naturel et de spontané, effectivement, qu'ils pourraient avoir envie de faire. Et c'est ce décalage qui les rend très mal à l'aise, de se dire « Ah, c'est donc vers ça que je dois aller pour être un adulte, et c'est donc ça que je dois avoir envie de faire et de pratiquer, et qui doit me donner du plaisir. » Et c'est ce décalage qui est très difficile à vivre pour eux, effectivement.
Florian Vauros, docteur en sociologie, rechercher la performance sexuelle telle qu'on peut la voir dans ces images pornographiques que diffusent les sites. Ce sont les codes des jeunes aujourd'hui ?
Alors, je pense en fait que la pornographie, elle est moins problématique parce qu'elle serait déviante, mais plutôt justement parce qu'en fait, elle est assez normative. Cette pornographie hétérosexiste, en fait, elle vient plutôt renforcer des constructions dominantes de la masculinité, de la virilité hétérosexuelle. Et donc ce qui pose problème, en fait, c'est moins la pornographie que le sexisme et la construction dominante de la masculinité hétérosexuelle.
Pardon de vous, interrompre là-dessus, mais enfin, c'est souvent très lié tout de même.
Oui, mais alors, il faut prendre le contexte. Et le contexte, c'est que c'est la famille qui est le premier lieu des violences sexuelles sur les enfants. Maintenant, on sait que c'est un phénomène systémique, qu'on estime qu'il y a environ un enfant sur 10 qui subit des violences sexuelles, et c'est avant tout dans le cadre de, dans le cadre de la famille. Donc on ne peut pas opposer d'un côté la famille qui serait un endroit sécurisant, et de l'autre côté, la pornographie qui serait un espace dangereux. Je pense que quand on parle de sexisme et de violence sur les enfants, il faut s'y attaquer de manière transversale. Et je pense qu'il ne faut pas mettre sur le même registre le fait de regarder des images et le fait de subir une agression sexuelle. Subir une agression sexuelle réelle est beaucoup plus traumatique que de visionner des images. Et je pense aussi que dans la question de visionner des images, il faut faire une différence entre le fait de d'être exposé à la pornographie de manière subie et le fait d'y aller de manière volontaire, d'avoir une curiosité. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une curiosité sexuelle chez les adolescents, adolescentes, et on peut pas mettre un plan la curiosité sexuelle et les expositions subies des enfants et des adolescents.
Avec tout de même, souvent, pardon de vous reprendre, mais pour ces enfants-là, des images d'humiliation, de dégradation. Vous dites que c'est moins fort une... Vous dites que visionner des images de pornographie est moins violent, alors on mettra le mot violent entre guillemets parce que ça dépend sûrement de quel âge, mais qu'une agression physique, sexuelle et qu'un viol. On est à peu près d'accord là-dessus, oui. Mais ça a tendance à minimiser peut-être l'impact de l'image dégradante, humiliante, de la femme bien souvent, que véhiculent ces images.
Alors... Je pense que le problème du sexisme et de la misogynie, c'est un problème lié à notre environnement médiatique dans son ensemble. On est quand même dans un moment de banalisation de la parole sexiste, misogyne, raciste. Il suffit de voir, voilà, notre environnement médiatique, c'est Donald Trump, c'est CNews. Donc en fait, voilà, la dégradation en fait ou l'humiliation des femmes n'est pas spécifique à la pornographie. Et je pense que il est plus intéressant de l'appréhender de manière systémique. Et de penser de manière systémique la lutte contre le sexisme et la lutte contre la misogynie, plutôt que de cibler une forme d'expression culturelle en particulier, qui est tout à fait problématique, évidemment.
Maëlle Chalambelval, vous souhaitiez réagir ?
Oui. En fait, pour moi, un des grands problèmes de la pornographie pour les enfants, c'est que justement, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, il n'y a pas de sous-titrage, il y a du cri, ça geint, et les enfants après nous posent des questions, mais pourquoi quand on fait l'amour, les femmes poussent des cris, est-ce qu'elles ont mal, on ne comprend pas très bien si c'est du plaisir, de la douleur. En fait, ce qui manque, c'est la parole. Ce qui manque aux enfants et aux adolescents sur la sexualité humaine, c'est une parole qui construit, une parole qui donne des connaissances, une parole qui fait réfléchir. La pornographie n'apporte absolument pas cette parole.
L'émission s'appelle Le Téléphone Sonne avec Parole aux auditeurs, 01 45 24 7000. Paul est en ligne de l'Ariège. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Quelle est votre question, votre témoignage ?
Oui, merci pour cette émission. Voilà, alors déjà un témoignage. Moi, j'ai 78 ans et j'ai été élevé à la campagne. Et quand j'ai demandé à mes parents, mon père en particulier, comment on faisait des enfants, il m'a dit, tu vas voir dans les champs, tu vas voir la vache et le taureau. Ah, ce que j'appelle la pornographie bestiale. Voilà, donc ça, c'est véridique. Et par contre, la question que je voulais poser... Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que on se préoccupe à juste titre de la pornographie par rapport aux enfants. Par contre, dès qu'on veut donner des cours d'éducation sexuelle, par exemple, et apprendre aux enfants à dire non, comme ça c'est prévu à l'école, tout le monde pousse des cris d'orfraie de partout et tout ça, ça va les pervertir, ça va faire ci, ça va faire là. Et comme je sais que dans les familles ça ne se fait pas, l'éducation dans les familles ne se fait pas, je peux en parler savamment, hein, j'en ai discuté avec plein de parents. Donc, comment faire ?
Merci de ce témoignage, d'abord sur la pornographie bestiale, et de cette question sur la place de l'éducation sexuelle. Vous dites que ça n'existe pas en famille. Je ne sais pas si on a des études très précises là-dessus. On va s'intéresser à l'éducation sexuelle peut-être dans les établissements scolaires. Maëlle Chalambelval, je rappelle que vous vous déplacez, vous et vos équipes, dans les classes du CM1 à la terminale. L'éducation sexuelle, elle est passée à la trappe ?
Alors, il y a des parents qui prennent vraiment leurs responsabilités et qui, avec le peu qu'ils ont reçu, essayent de donner.
Hein.
Non, mais c'est pour rétablir le fait que les parents ne sont pas forcément muets. Ils essayent, avec les compétences qu'ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, ou alors ils auraient le désir de le faire pour un certain nombre d'entre eux aussi, mais sans toujours avoir les mots. Quant aux professionnels, vous savez que le programme, il est sorti seulement en février 2025. Donc la loi contraint normalement en France les établissements scolaires depuis 2001, donc depuis 24 ans, à donner aux enfants et aux ados 3 séances par an, mais le programme sort seulement 24 ans après. Donc en fait, on est au début de l'éducation affective et sexuelle en France. C'est fou, mais c'est comme ça. Mmh. On est au début et on a besoin de moyens, on a besoin de former, d'outiller les professionnels, on a besoin de temps, on a besoin de liens avec les partenaires extérieurs, mais pour que les enfants et les adolescents aient accès à ce contenu.
Justine Atlan, pour l'association e-enfance, il existe désormais sur les réseaux des contenus en ligne d'éducation sexuelle. Ça vaut quoi ?
Alors, c'est vrai que les jeunes ont dû faire avec ce qu'ils pouvaient, parce qu'effectivement, il y avait quand même un grand vide sur toutes les questions qui s'opposent, notamment à l'adolescence, qui sont très centrales, le changement du corps, le bouleversement des hormones, voilà, les pulsions qui arrivent, le désir, etc. Mais personne ne leur en parle massivement, et il n'y a pas en tout cas d'éducation. Donc ils ont inventé, et ça c'est quand même un des aspects très positifs des réseaux sociaux, c'est que se sont créés de façon très spontanée une génération en fait de créateurs de contenu qui ont décidé d'informer les jeunes, de s'informer entre eux du reste, hein, et les informations tout simplement déjà sur le corps, hein, comment fonctionne le corps du garçon, le corps de la femme. Je vous rappelle que le clitoris est apparu dans les manuels de sciences naturelles il y a très récemment. Enfin voilà, donc ils ont vraiment commencé à parler de consentement, ce mot a commencé à apparaître dans ces contenus-là, justement, vidéo pour les jeunes, effectivement, de plaisir féminin, d'un certain nombre de choses qui ne sont dites nulle part, qui n'étaient parlées nulle part. Et c'est vrai que, heureusement, que ces contenus ont existé parce qu'ils ont rempli un vide. C'est pour ça que c'est pas si facile d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes, parce qu'on les priverait de tous ces contenus-là qu'il n'y a pas et qui, à mon avis, vont demeurer quand même malgré, effectivement, les séances d'éducation à la vie relationnelle et affective et sexuelle, parce que ça se complète, en fait, parce que ça ne sera pas les mêmes mots, ça ne sera pas la même façon de faire. La question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on montre parce que c'est ça, en fait, que c'est censé pallier la pornographie. C'est finalement, les jeunes, ils ont besoin de voir, parce qu'ils ont envie de voir à quoi ça doit ressembler, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce qu'on doit montrer ? Bon, je pense qu'on est tous d'accord que non.
Pas forcément. Mais je voudrais poser la question à Florian Vorhos. J'ai entendu votre discours, Florian Vorhos. Est-ce que vous concevez la pornographie comme l'un des leviers pour combler, avec beaucoup de précautions, le manque d'éducation sexuelle ?
Alors, je pense que quand on parle de pornographie, on entend beaucoup de choses très différentes. Ce qui doit nous alerter, c'est que les groupes politiques réactionnaires qui s'opposent à l'éducation à la sexualité s'opposent à l'éducation à la sexualité parce qu'elle serait pornographique. Donc, pour les groupes qui s'opposent à l'éducation à la sexualité, le fait de parler ou de montrer des images anatomiques, c'est en soi déjà pornographique. Ensuite, il y a beaucoup des filtres parentaux qui sont appliqués sur les smartphones, sur les navigateurs, des adolescents qui empêchent d'accéder aux différentes ressources numériques concernant l'éducation à la sexualité. Donc, parfois, en fait, la lutte contre la pornographie est aussi une lutte contre l'accès des adolescents à l'accès à l'information sexuelle. Ensuite, je voudrais souligner qu'il y a aussi une pornographie féministe. En France, il y a des réalisatrices comme Anouchka, Carmina, Robin Chien, qui sont très peu soutenues. Et on peut aussi souligner qu'il y a aussi des réalisatrices, des actrices qui, par la pornographie, essayent de changer les imaginaires sexuels. Et on pourrait aussi, du coup, les mentionner et avoir des politiques culturelles qui les soutiennent davantage.
La consommation de la pornographie en France, on en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Jacqueline est en ligne de Paris. Bonsoir Jacqueline.
Oui, bonsoir. Ma question porte sur le fait que l'exposition des jeunes enfants à des sites pornographiques n'est-il pas facilitée par le fait que les enfants ont de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes des smartphones entre leurs mains ? Et ne faut-il pas aussi, donc, de fait, regretter un manque d'accès à des livres éducatifs sur l'éducation sexuelle dans les bibliothèques et les CDI de collège. Voilà. Mais l'accès au par les smartphones me semble être quand même une préoccupation.
Alors, l'accès au smartphone, c'est encore effectivement un débat qui est lié forcément à la pornographie quand on parle des enfants de moins de 13 ans. Maëlle Chaland-Belval, à propos de la littérature dont parlait Jacqueline à l'instant, Jacqueline de Paris, la littérature en bibliothèque, elle existe pour l'éducation sexuelle ?
Oui, il y a de plus en plus de petits livres qui parlent du respect du corps, mon corps c'est moi, y compris pour des enfants de maternelle, des enfants de primaire, et puis des livres qui parlent de la puberté, des premières relations amoureuses, de l'orientation sexuelle. Il y a une édition très intéressante sur ces sujets-là. Mais encore une fois, pourquoi ne donner aux enfants et aux adolescents que des images ou des livres ? En fait, ils ont besoin souvent d'interlocuteurs. Ils ont besoin d'y réfléchir entre eux. Ils aiment énormément, dans ces séances, avoir la possibilité de réfléchir sur des cas pratiques ensemble, d'échanger, de discuter, de se faire une idée. Et ils aiment la présence d'un adulte qui est médiateur, qui a une posture qui est respectueuse, qui fait régner aussi une forme de respect les uns des autres dans une séance de ce type. En fait, les livres ne suffisent pas, c'est encore très solitaire, à moins qu'ils puissent être racontés, qu'ils puissent faire l'objet d'un petit lien avec la vie quotidienne de l'enfant ou de l'adolescent.
Et à propos des réseaux sociaux et des téléphones portables dont parlait notre auditrice à l'instant, Justine Atlan, les réseaux sociaux sont censés être limités au moins de 13 ans, enfin interdits au moins de 13 ans. Dans les faits, beaucoup d'ados ont déjà leur compte sur les réseaux sociaux. Vous souhaiteriez une interdiction effective des réseaux sociaux au moins de 13 ans ? On fait comment ?
Alors,
il y a beaucoup de questions dans ma question, c'est
oui,
ça que vous voulez
non,
dire
non, c'est pas ça, c'est qu'il faut remettre... En fait, il n'y a aucune interdiction des réseaux sociaux au moins de 13 ans. Ce sont les réseaux sociaux, quand ils se sont créés aux États-Unis, ont mis dans leurs conditions générales d'utilisation qu'ils n'acceptaient pas les moins de 13 ans.
Ça, c'est la théorie.
En tout cas, ce sont leurs conditions générales d'utilisation. C'est leur règlement intérieur qui se sont...
Dans les faits, c'est absolument pas respecté.
Voilà, ils ne respectent pas eux-mêmes leur propre règlement intérieur. Parce qu'effectivement, ils n'ont rien mis en place pour être sûrs que ceux qui arrivaient chez eux avaient l'âge qu'ils déclaraient avoir. Et en fait, c'est pour ça qu'on se bat, e-enfance et d'autres, sur ce sujet de l'accès à la pornographie et la vérification d'âge. C'est évidemment pour le sujet de la pornographie, mais derrière ce sujet de l'accès des mineurs à la pornographie et de la vérification d'âge de 18 ans, évidemment que derrière, notre combat, il est aussi de mettre en place une vérification d'âge qui permette justement, effectivement, de permettre aux enfants et aux adolescents d'accéder aux réseaux sociaux aux âges auxquels c'est autorisé, et non pas, effectivement, de les laisser rentrer dans ces univers qui comportent aussi des risques pour eux et d'autres, à des âges, effectivement, aujourd'hui, concrètement, un enfant peut s'inscrire à 6 ans, à 4 ans sur un réseau social, rien n'en empêche. Et il y a aussi des contenus pornographiques, d'ailleurs, qui circulent sur ces plateformes, effectivement.
Florian Voros, les conditions d'obligation d'avoir 18 ans, de montrer qu'on a 18 ans, de le prouver même, si possible, faire signer numériquement un tiers qui connaît l'âge, ça semble une grosse usine à gaz. Est-ce que ça vous paraît efficace ?
Alors, ça fait plusieurs années que c'est en discussion dans plusieurs pays, et à l'heure actuelle, il n'y a aucun pays où ça a vraiment fonctionné. Donc, moi, j'ai l'impression effectivement que c'est plutôt une usine à gaz, et j'ai l'impression qu'en fait, cette cause d'empêcher les mineurs d'accéder à la pornographie ou d'y être exposés involontairement, c'est surtout une cause qui prend politiquement, parce que ça permet à toute une série de, y compris d'acteurs de l'industrie pornographique, hein, il y a beaucoup de studios pornographiques qui s'engagent très fortement sur cette question-là, parce que ça leur permet, voilà, d'améliorer leur image de marque. Il y a tout le secteur associatif qui se mobilise, il y a à peu près tous les partis politiques qui sont d'accord là-dessus, donc ça fédère beaucoup de monde. Mais à l'arrivée, effectivement, en termes de bien-être et de droits, en fait, de droits culturels, de droits médiatiques, de droits sexuels et reproductifs pour les adolescents et les adolescentes, c'est pas significatif. Donc moi, je suis un peu troublé par toute l'énergie qui est mise, effectivement, pour quelque chose qui relève assez largement d'une usine à gaz, là où il n'y a pas de consensus, malheureusement, on n'arrive pas à avoir un consensus pour avoir plus de séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et qu'elles soient plus ambitieuses dans leur contenu. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer.
Vous êtes d'accord avec nos invités ?
Non, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on ne doit pas opposer l'éducation et tout simplement faire respecter la loi qui est une loi qui existe, qui préexiste à Internet, hein, qui fait que les contenus pornographiques sont faits pour les adultes, sont réservés aux adultes et du coup sont interdits aux mineurs. L'un et l'autre peuvent tout à fait justement coexister, c'est comme ça que c'est perçu. Les industriels de la pornographie ont choisi de travailler dans la pornographie, ils auraient pu choisir une autre activité, ils ont choisi celle-là en connaissance de cause qu'elle a un cadre précis qui est de ne pas être accessible aux mineurs.
Non, mais ce que dit Florian Voros, pardon, c'est qu'il dit qu'il pourrait y avoir une pornographie pour les gamins de 17 ans.
Pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. Là, il s'agit aujourd'hui.
C'est un peu le sujet ce soir, pardon.
Pas complètement, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que 100% des enfants ont accès à la pornographie. C'est quand même problématique pour un contenu. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que des jeunes entre 15 et 17 ans, s'ils ont accès à de la pornographie, qu'ils peuvent choisir, sur laquelle effectivement il y a du contenu qui peuvent les amener à commencer leur vie ou à comprendre un certain nombre de choses sexuelles. Je pense qu'il n'y a pas de débat. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas vraiment le sujet. Je voudrais juste revenir sur le fait que ce n'est pas une usine à gaz, la vérification d'âge. En ce qui concerne la pornographie, c'est juste demander à tous les adultes de prouver leur majorité. Et si on n'y arrive pas, par défaut, on est mineur et donc on n'a pas accès à la pornographie. C'est très simple à faire. La technologie, il n'y a rien d'ailleurs de très technique compliqué. C'est un peu comme quand vous payez en ligne, il y a juste un tiers de confiance qui va valider votre majorité. C'est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est compliqué.
Il semble que ce soit un système facilement contournable par la VPN, c'est-à-dire
c'est
la géolocalisation.
C'est toujours contournable. Oui, complètement. Mais je veux dire, vous allez être cambriolé peut-être ce soir. Pour autant, vous avez des serrures à vos portes et vous fermez à clé. Voilà, ça, c'est pas un problème. Voilà.
Florian Voros, oui, vous avez raison de le dire. Florian Voros, on ne va pas faire un débat ce soir entre deux écoles différentes, mais vous souhaitiez réagir brièvement.
Oui, peut-être deux éléments. Il y a une situation paradoxale, c'est qu'aujourd'hui en France, quand on a entre 15 et 18 ans, on est majeur sexuellement du point de vue de la loi, mais on ne peut pas accéder à des représentations explicites de la sexualité. Le deuxième point, c'est que pour moi, toute cette question de l'accès des mineurs à la pornographie, c'est plus une préoccupation d'adultes qu'une préoccupation d'adolescents. À mon avis, si on faisait une grande consultation nationale auprès des adolescents pour savoir quelle est leur priorité, c'est quoi les choses la plus importante qu'on pourrait faire en tant que société pour eux, ça m'étonnerait en fait que la fermeture des sites pornographiques aux moins de 18 ans apparaisse en premier. Donc je pense que c'est surtout en fait une préoccupation d'adultes.
Ouais, enfin, pardon de vous couper, mais les préoccupations d'adultes, on pourrait dire la même chose de la malbouffe, en disant, puisque les gamins aiment bien mal manger, laissons-les mal manger. Le parallèle n'est pas forcément très flatteur.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, on se concentre sur le fait de restreindre l'accès à un objet qui est tout à fait problématique, hein, par ailleurs. Hein, Mais ce qui me marque, c'est que là, on n'a pas des adolescents qui se mobilisent par eux-mêmes et qui disent aux adultes, c'est ça notre priorité.
Donc
on
vous trouvez qu'on met trop facilement les jeunes dans une position passive et de victime, hein, face à la consommation de la pornographie.
Je trouve qu'y compris à l'éducation nationale et en général dans toutes les institutions, les adultes ne laissent pas assez la parole et ne mettent pas assez les besoins en fait, tels qu'ils sont formulés par les adolescents au premier plan.
01 45 24 7000, les auditeurs ont la parole sur France Inter, le téléphone sonne, Géraldine nous appelle de Lyon, bonsoir Géraldine.
Bonsoir, je vous remercie d'accueillir ma question, je rebondis justement sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le besoin des adolescents. Je suis moi-même parent et je réagis à votre idée selon laquelle ce sont les parents qui doivent informer et éduquer leurs adolescents. Le souci, c'est qu'il y a quelques mois, sur votre antenne, j'ai entendu un spécialiste dire justement qu'on n'était pas du tout les mieux placés pour le faire et qu'il valait mieux qu'on s'en garde. Et moi-même, j'avoue, je suis très ouverte par rapport à la sexualité, j'en parle très facilement et je me rends compte que mes filles adolescentes ne veulent pas en entendre parler de ma bouche. Et dans la mesure où c'est moi qui en parle, elles ont l'impression d'avoir plutôt une vue sur ma sexualité que sur celle dans laquelle elles souhaiteraient se projeter.
Merci d'avoir posé cette question très précise, très intéressante. Je vais la soumettre à nos invités, Maëlle Chalambelval, présidente de l'organisme de formation Comitis. Est-ce que les parents sont les mieux armés, les mieux placés pour parler de sexualité, voire de pornographie à leurs propres enfants ?
Les parents font partie de l'écosystème. Il n'est pas une question de savoir qui est le mieux, qui est devant, qui est premier. On doit tous s'y mettre, nous les adultes. On doit tous jouer notre rôle et prendre nos responsabilités.
Mais
il y aura une partie des parents.
Est-ce que les parents ne doivent pas en parler d'une façon un peu différente d'un
si,
sexologue,
les parents,
d'un prof
forcément, d'un... Les parents, ils doivent avoir une certaine pudeur sur leur propre témoignage, leur propre vie, leur propre sexualité. Il ne s'agit pas de raconter ce qu'on fait dans sa chambre à coucher ou de donner le détail de tous les partenaires qu'on a pu avoir. En fait, les parents transmettent des valeurs, ils transmettent du sens, ils transmettent une vision de la vie, ils transmettent une forme d'invitation au respect. Ils peuvent transmettre beaucoup de choses sans forcément entrer dans les détails du Kama Sutra. On est complémentaires entre adultes, on est complémentaires, parents, professionnels. Il ne s'agit pas forcément de pouvoir de faire et de forcer les enfants en les asseyant pendant une heure et en leur faisant un exposé sur mon fils, il faut que je te parle. Mais finalement, même par notre manière d'être, notre manière de traiter notre partenaire, notre manière de rire ou de ne pas rire à des blagues homophobes, on est déjà des éducateurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément donner un cours, c'est être des éducateurs sur cette question de la vie amoureuse et de la sexualité.
Je vais rester encore un peu avec vous, Maëlle Chaland-Belval. Il y a pas mal de questions sur une supposée addiction à la pornographie. À l'adolescence, est-ce que beaucoup d'élèves que vous rencontrez évoquent ces problèmes d'addiction à la pornographie ? Le terme d'abord d'addiction n'est peut-être pas le mot le plus idoine, le plus adéquat.
Il est discuté actuellement, il fait l'objet d'études. Mais c'est vrai que dans leur langage courant, en tout cas si on écoute les enfants, les adolescents, eux sont des mots un peu qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, ils utilisent, quand ils arrêtent la pornographie, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Thibaut InShape, ils utilisent le mot « clean » quand ils ont arrêté, comme s'ils étaient devenus sobres. Donc, il y a un langage, en tout cas par assimilation, qui est un petit peu celui qu'on utilise pour les addictions, pour les drogues. Ce qui est certain, c'est que la masturbation compulsive liée au visionnage de films pornographiques, parce que peut-être le mot « masturbation » n'a pas été prononcé dans cette émission, or, la pornographie, c'est pas une consultation passive. Elle est liée, en fait, à la masturbation. Elle est devenue parfois une sorte de spirale pour certains jeunes garçons et filles et qui les inquiètent parce qu'ils perdent le contrôle de leurs pensées, de leur corps aussi, et qu'ils l'assimilent, en tout cas, eux, dans leur vécu d'adolescent, à une forme d'addiction.
Et on a entendu ce matin sur France Inter le témoignage de jeunes devenus un peu plus vieux, qui expliquaient justement le plaisir qu'ils avaient à avoir stoppé cette addiction supposée, le mot, j'arrive pas à trouver le bon terme, en tout cas, addiction à la pornographie. Florian Vorose, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je souhaiterais attirer l'attention sur les vidéos pour sortir de l'addiction à la pornographie de type No Nut November ou NoFap. Donc autrement dit, arrête de te branler ou arrête d'être un branleur, qui sont adressés par des influenceurs tels que Thibaut InShape à des jeunes. Ce sont des contenus souvent masculinistes. C'est-à-dire que souvent on prône un arrêt de l'éjaculation et un arrêt de la masturbation pour retrouver une virilité soi-disant naturelle et pour booster sa virilité dans les termes qui sont utilisés. Et en fait, cet enfermement masculiniste, il passe aussi par par cette promotion de cette abstinence sexuelle un peu viriliste qui est proposée par ces influenceurs fitness notamment. Donc je pense qu'il faut faire attention avec cette rhétorique-là qui, en plus de ne pas être fondée scientifiquement, et aussi, on va dire, valorise aussi la virilité Donc voilà, donc je pense que ce n'est pas uniquement la pornographie qui est le problème, c'est parfois des discours anti-porno qui prônent un renforcement de la virilité par l'arrêt de la pornographie qu'il faut aussi interroger.
Et parfois, la religion n'est pas très loin de ces influenceurs. Justine Atlan pour l'association e-enfance. Dans votre association, rencontrez-vous des adultes qui auraient aimé être protégés des images porno qu'ils ont vues en étant plus jeunes ?
On intervient effectivement dans les établissements scolaires chaque année. On rencontre à peu près 200 000 enfants et adolescents. Et je partage le témoignage de Maëlle, c'est-à-dire que les jeunes adultes d'aujourd'hui, qui ont 20-25 ans environ, qui ont consommé, parce que c'est plus que visionné, effectivement, qui ont consommé de la pornographie très tôt, regrettent quand même, il exprime très bien aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur, à la place où on est nous, d'avoir l'air ringard, soi-disant, parce qu'on est contre la consommation de pornographie par des mineurs ou décalée par rapport à l'été. Eux-mêmes vous disent, en fait, j'en ai vu trop tôt, ça m'a effectivement accaparé dans de la masturbation excessive, dans la reproduction avec mon ou ma partenaire, etc. Et j'aurais préféré le voir plus tard.
Et ces adultes qui regrettent d'avoir vu des images porno trop jeunes ou trop souvent, ils souffrent de quoi aujourd'hui ?
Ils souffrent en fait d'un manque d'épanouissement dans leur vie sexuelle, tout simplement. Et comme le disait Maëlle, c'est pas que la vie sexuelle, c'est la relation sexuelle, c'est l'épanouissement, le bien-être physique et mental. La vie étant courte et ayant une fin, c'est des années perdues en fait. Et qu'il faut retravailler, reconstruire sa vie sexuelle, c'est un vrai travail.
Maëlle Chaland-Belval.
ils souffrent parfois. Moi, je suis conseillère conjugale de métier, donc ça fait partie de ce qu'on peut voir en thérapie. Ils souffrent parfois de voir une personne très morcelée, en petites zones érogènes excitantes, au lieu d'avoir face à eux un partenaire ou une partenaire entier ou entière. Ils souffrent aussi parfois de panne de désir. Comment être excité par la personne avec qui on vit, on
sans
est...
Sans l'image virtuelle, enfin virtuelle,
voilà,
sans l'image.
Et puis qui parfois réclame des contenus de plus en plus gore, en fait, hein, pour avoir une excitation sexuelle. En fait, la sexualité trop liée à la pornographie peut faire perdre une forme de créativité sexuelle. Vous voyez, il y a un côté apprendre à improviser, apprendre à donner du plaisir à l'autre, apprendre à s'en donner à soi-même sans suivre la chorégraphie des films porno. Et quelque part, les enfants qui ont été biberonnés à la pornographie depuis tout petit, ce qu'on a coupé chez eux, c'est leur puissance de créativité sexuelle.
Eh bien, merci de l'avoir dit aussi clairement. Merci à tous les trois. Le téléphone sonne, c'est terminé. À suivre dans un instant, ce sera l'heure philo, votre heure philo. Patricia Martin, bonsoir.
Bonsoir Éric Delvaux. Vous voulez savoir de quoi nous allons parler ?
Exactement.
D'intensité. Mais comme vous êtes un homme intense, je sais déjà que vous savez de quoi nous allons parler.
L'intensité de la vie, l'intensité de
tout. De même tout. Du chocolat. Tristan Garcia et Jean-Philippe Pierron sont nos invités.
L'intensité, tout à l'heure dans l'émission L'Heure Philo de votre émission, donc Patricia Martin. Ce sera après le flash de 20h et après les petits bateaux qui ont toujours une question pertinente à poser.
Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 11 ans et je me demandais qu'est-ce que la beauté. Donc j'espère que vous pourriez me répondre. Voilà, merci.